Alena Gabertova vous présente le bulletin d'information. Des émeutes ont accompagné les célébrations de la fête du travail du 1er mai. À Prague, la police a arrêté, par exemple, deux personnes qui ont essayé de perturber la manifestation de quelques 10 000 communistes qui se sont réunis, comme le veut la tradition, sur l'esplanade de l'Etna à Prague. À Brno, capitale de la Moravie du Sud, la police est intervenue pour empêcher un conflit entre une trentaine d'anarchistes et plus de 200 néo-nazis. Les représentants et près de 1800 sympathisants du Parti social-démocrate ont célébré la fête du 1er mai à la foire des expositions à Prague. L'intervention principale a été prononcée par le Premier ministre Jiří Paroubek. Le chef du parti et ex-premier ministre Stanislav Gross était absent. Des néo-nazis de Prague se sont donné rendez-vous sur la place de la vieille ville pour dire non à l'Union européenne. À plusieurs endroits de la République, les célébrations de la fête du travail ont pris la forme de divertissement ou de happening. Le premier ministre Jiří Paroubek s'attend à ce que, lors du vote de confiance prévu pour le vendredi 13 mai, son cabinet obtienne toutes les 101 voix qu'il lui faut. Il a déclaré lors d'un débat télévisé de ce dimanche. La chute des intentions de vote du Parti social-démocrate, premier parti de la coalition gouvernementale, sera le principal thème d'une rencontre de la plateforme pour la renaissance de la CSSD et de ses sympathisants avec Miloš Zeman, ex-premier ministre et leader du parti qui aura lieu mardi prochain. L'opéra Siegfried de Richard Wagner, la troisième partie de la tétralogie L'anneau du Nibelung, est présenté ce dimanche soir au Théâtre National de Prague. On rappellera que c'est pour la première fois que la tétralogie est présentée intégralement sur cette première scène d'opéra tchèque. Samedi soir, l'ensemble japonais Delegation of Toyama Performing Arts s'est présenté avec grand succès sur la scène du Théâtre des États. Le spectacle de danse s'inscrit dans le projet de l'année des relations interhumaines entre l'Union européenne et le Japon, déclaré pour cette année par l'Union européenne. La sixième victime tchèque des tsunamis en Asie a été identifiée en Thaïlande. Il y a encore deux des huit tchèques portés disparus qu'il reste à identifier. Météo ce lundi, qui est le jour de fête de Sigismond, la météo prévoit un ciel presque dégagé et les températures diurnes se situant autour de 25 degrés. C'était donc le journal de Radio Prague. Ah!
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de Culture sans frontières, consacrée aujourd'hui à la poésie et au 7e art. Vous entendrez le traducteur Ferdinand Stoches qui a reçu le prix littéraire Magnesia Litera pour les chants et vers de la Chine populaire. Si tout va bien, l'ouvrage paraîtra aussi en France. Dans l'actualité culturelle, nous parlerons entre autres du Festival international du film de Carlo Vivari, dont la 40e édition commencera dans 2 mois. Ferdinand Stoches, 75 ans, est ingénieur agricole. Son travail l'a emmené dans plusieurs coins de la planète, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Polyglotte et amateur de littérature, il est tombé amoureux notamment du chinois et de la poésie écrite dans cette langue. Il a publié plusieurs recueils de poèmes chinois en République tchèque et aussi en France, sa deuxième patrie. Par exemple, une étude de la vie et l'œuvre du poète Li Po, intitulée « Le ciel pour couverture, la terre pour oreiller », publiée en 2003 aux éditions Philippe Péquier. Le 25 avril dernier, Ferdinand Stoches a reçu à Prague le prestigieux prix Magnesia Litera de la meilleure traduction de l'année 2004 pour son anthologie de la poésie chinoise ancienne « Les chants et vers de la Chine populaire » édité par Mladá Fronta. Ferdinand Stoches.
J'étais très heureux de recevoir ce prix, tout simplement parce que c'est déjà 30 ans que je travaille sur la traduction de la poésie chinoise. Et bien sûr, je le fais en français et également en tchèque. Et jusqu'à maintenant, l'attention que mes publications ont reçue a été relativement restreinte. Mais maintenant, ça va un peu mieux, puisque en réalité, maintenant, peut-être, on va connaître un peu plus la poésie chinoise et surtout mes traductions qui sont très, très simples et qui sont faites non pour les spécialistes ou pour quelqu'un qui s'occupe particulièrement ou s'intéresse particulièrement de la Chine ou de la poésie, mais même quelqu'un qui n'est pas un grand amateur ni de la Chine ni de la poésie. Pour tout le monde, voilà. C'est ça.
Et pensez-vous donc que vos poèmes sont plus connus en France qu'en République tchèque?
Ça, c'est un peu difficile à dire. Ce qui est sûr et certain, que mon livre « Le ciel pour couverture, la terre pour l'oreiller », publié chez Philippe Piquier, a connu une réussite moyenne, c'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai envoyé au début mars de cette année un livre qui s'appelle « Les chants verts de la Chine ancienne », également chez Philippe Piquier, parce que c'est une anthologie, mais qui est tout à fait différent par rapport aux autres anthologies, parce que c'est une anthologie très populaire, où il n'y a pas des notes explicatives, il n'y a rien de compliqué, mais dont le but, c'est de faire sentir la beauté, la tendresse, la mysticité de cette poésie qui a connu un ou deux millénaires et est toujours aussi actuelle, aussi vivante jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà un tout petit poème qui a au moins 2000 ou peut-être plutôt 2500 ans. À la porte de l'Est, sur le remblai, croît la garance. Ta maison est si près, mais toi-même, pourquoi restes-tu si distant? À la porte de l'Est, les châtaigniers se penchent sur les maisons basses. Comment te dire que je t'aime si tu restes si distant? Si tu m'aimes, je trousse ma jupe et je passe à gué la rivière Chen. Si tu ne m'aimes plus, il y en a d'autres, toi le plus fou des jeunes fous. Si tu m'aimes, je trousse ma jupe et je passe à gué la rivière Veille. Si tu ne m'aimes plus, il y en a d'autres, toi le plus fou des jeunes fous. Le vent du nord soulève des bourrasques. Si tu m'aimes, prends ma main et partons vite. Pourquoi hésiter? Pourquoi s'attarder si le temps presse? Le vent du nord chasse les tourbillons de neige. Si tu m'aimes, prends ma main et partons vite. Pourquoi hésiter? Pourquoi s'attarder si le temps presse? Rien n'est plus rusé qu'un renard. Rien n'est plus noir qu'une corneille. Si tu m'aimes, prends ma main et partons vite. Pourquoi hésiter? Pourquoi s'attarder si le temps presse? Ce sont les trois poèmes du canon des poèmes, en chinois on dit Shuqing, qui date au moins 5 siècles avant notre calendrier. Ce sont des poèmes anonymes, des poèmes populaires que les lettrés ont collectés dans les campagnes et ils en ont fait un recueil de 300 poèmes qui s'appelle Shuqing. Et les poèmes, comme vous le voyez, sont valables jusqu'à maintenant, parce que tout ça, ça peut arriver aujourd'hui aussi.
Vous êtes allé en Chine ?
Ah, bien sûr. J'ai travaillé 5 ans comme contrôleur des projets dans le cadre d'un fonds international pour le développement agricole. Et j'avais la responsabilité exclusivement pour les projets en Chine. Et c'est 5 ans qui sont peut-être mes années les plus heureuses de ma carrière de contrôleur des projets, parce que les projets en Chine, on a pu voir les résultats. C'était des projets qui étaient réalisés si rapidement que c'est presque incroyable. Alors, on a fait une année, on a fait un projet, et à la fin de la deuxième année, déjà, il y avait des premiers résultats, et la troisième année, la vie dans le petit village a complètement changé. C'est-à-dire, c'était la joie de travailler là-bas. Mais bien sûr, aussi, j'ai réchauffé ma petite soupe, c'est-à-dire j'ai pris des contacts avec des spécialistes de la poésie chinoise, et comme ça j'ai pris la connaissance des professeurs de la poésie chinoise, parce que eux, ils n'ont pas des professeurs seulement de la langue ou de la littérature, mais de la poésie chinoise, de la poésie ancienne. Et donc, ainsi, j'ai pu échanger des idées et puis avoir vraiment des contacts très étroits et avoir des conseillers très calés.
Et c'était en quelle année, à peu près?
Tout ça, c'était entre 1985 et 1990. Alors, c'est 5 ans. J'avais le siège, j'étais basé à Rome. Où aussi la FAO, où aussi l'IFAD, c'est-à-dire International Fund for Agricultural Development. Et alors, mais en travaillant sur le projet, j'ai passé, disons, moitié de mon temps dans les provinces différentes de la Chine. Alors donc, c'était merveilleux, j'ai pu connaître même les endroits où, à Sichuan, où l'Ipo est descendu vers le fleuve. Et puis c'était merveilleux.
Et dans cette période-là, vous avez déjà parlé couramment chinois?
Ah, mais non, pas du tout. C'est-à-dire, j'avais pas du tout l'occasion de parler le chinois, parce que les Chinois n'aimaient pas du tout mes tentatives de faire quelque chose ou d'apprendre, ou parce que eux, ils s'exprimaient en anglais, ils voulaient que tous les documents soient rédigés en anglais, et ils voulaient que ce sont eux qui ont, disons, le monopole de traduire ce que les paysans disent. Parce que parfois, j'ai des soupçons, mais comme ça, tout gentiment, il ajustait un tout petit peu les expressions des paysans afin que ça colle mieux avec les intentions des fonctionnaires, voilà.
C'était Ferdinand Stoches, un des lauréats du prix littéraire Magnesia Litera de cette année.
Culture sans frontières.
Le 7e festival du film documentaire consacré aux droits de l'homme, One World, Jeden Svět, se déroule à Prague jusqu'au 5 mai prochain. Quelques 120 documentaires de 35 pays sont à voir dans plusieurs salles pragoises. La voix des femmes, le film et la femme, à propos d'amour, le sida, made in China, les fragments de la Bosnie, voilà quelques-unes des sections parallèles du festival. Une exposition itinérante de clichés du célèbre photographe brésilien Sebastião Salgado sera inaugurée le 2 mai prochain dans un train spécial à la gare centrale de Prague. À partir du 8 mai, le train sillonnera le pays. Début juillet, par exemple, il arrivera à Karlovy Vary où se tiendra parallèlement le traditionnel festival international du film. On vient d'ailleurs de publier la programmation de la 40e édition du festival. Quelques 230 films seront présentés, certains en première mondiale, c'est le cas surtout des films en compétition. Parmi les grands invités à l'événement, on trouve Robert Redford et Liv Ullmann. Les deux vedettes seront récompensées pour l'ensemble de leur carrière. Le jury sera présidé par le cinéaste britannique Michael Redford. Le festival de Karlovy Vary se tiendra du 1er au 9 juillet prochain. C'était Culture sans frontières. Magdalena Skirtova vous remercie de votre attention. Notre programme se poursuit avec le tourisme.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. David, allons.
Récemment réouvert dans un somptueux palais de la rue Karmelitska, dans Malastrana, le musée tchèque de la musique réserve de nombreuses surprises. À vrai dire, la diversité dispute la palme à l'insolite. Pédagogique et vivant, le parcours est parsemé de bandes sonores permettant d'écouter les instruments exposés. C'est tout simple, le musée de la musique fait figure d'incontournable pour les mélomanes et tous les amateurs de belles choses. Découvrir le musée de la musique, c'est un peu partir en terre inconnue, même pour l'explorateur averti. Néophyte ou amateur, vous êtes prévenu, vous croyez peut-être à tort savoir ce qu'est un violon, une guitare ou un clavecin. Car le musée de la musique, et ce n'est pas son seul mérite, n'est pas une simple collection d'instruments. Son exhaustivité n'a d'égal que l'originalité et le caractère unique des modèles exposés. La première surprise est fournie aux visiteurs par l'édifice lui-même, dont la façade, ornée de deux petites colonnes de Bernin, ne laisse pas présager un intérieur si déroutant. Dominé par une coupole vitrée semblant amplifier la lumière du soleil, un vaste atrium offre un espace très agréable aux visiteurs. Construit au XVIIe siècle par l'architecte italien Francesco Caratti, l'édifice a d'ailleurs une histoire mouvementée. D'église, il a rapidement abrité un bureau de poste, puis un hôpital militaire et enfin des casernes de police. L'exposition montre d'abord aux visiteurs l'étanchéité de la frontière entre art et artisanat en ce qui concerne la fabrication d'instruments. Car si la musique est bien un art auditif, la lutherie, pour ne prendre qu'elle, relève bien et bien de l'art visuel. Ainsi ce clavecin à queue du XVIIIe siècle sur lequel sont peints sur fond rouge de délicats motifs chinois. Tellement précieux qu'on se demande comment on a pu oser en jouer. Personnellement, j'ai eu un faible pour la collection d'instruments à cordes du maître pragois Thomas Andreas Ulinski au XVIIIe siècle. noter sa magnifique guitare de 1854 et bien sûr les inévitables viols d'amour au nom si poétique. La salle des cordes offre de véritables surprises. À côté d'un violon aux dimensions lilliputiennes, trône un magnifique violon baryton dont le manche, étrangement décalé vers la droite, est surmonté d'une tête d'homme à chapeau. Répartie sur les premiers et deuxième étages, l'exposition permanente se démarque par la diversité des instruments exposés. Mais surtout, le visiteur ne ressent aucune impression de monotonie, tant les découvertes sont au rendez-vous. Insolite, cet échantillon d'harpes françaises de style empire, décoré comme des ponts parisiens. Ou encore, la série de pianos girafes, dont toute la structure est verticale. Plus loufoque, l'harmonium en verre, fait de plaques de taille décroissante et dont le son est finalement presque harmonieux. Comment le savons-nous ? Dans chaque salle se trouvent des bandes sonores qui permettent au public d'écouter le son des instruments exposés. Un point fort qui rend l'exposition très vivante et illustre aussi le souci pédagogique de ses organisateurs. De même, des panneaux en tchèque et en anglais donnent de précieux repères historiques et retracent les grandes innovations. La musique est microtonale, qui naît aux alentours des années 20, fournit un exemple étonnant de dépendance entre concept musical et fabrication de l'instrument. Cette technique consiste à utiliser des intervalles de plus en plus petits, quart de ton, sixième de ton. Grande figure de la musique microtonale, le musicien tchèque Alois Haba faisait construire des pianos spécialement adaptés à cette technique. L'exposition offre d'intéressants modèles d'harmonium à six tons, généralement équipés de trois claviers, dont le dernier est tout bonnement minuscule. Autre point fort de l'exposition, le nombre important d'instruments fabriqués en bohème, qui rappelle, si besoin était, la solide tradition des terres tchèques dans cette discipline, mais aussi dans l'avant-garde. Ainsi, la salle consacrée au jazz et au rock tchèque se donnerait presque des airs futuristes. Et qui pourrait croire que ce synthétiseur Cremon, aux allures de tableau de bord de vaisseau spatial, date de 1956. Notons que le concept de prototype n'attend pas le XXe siècle en bohème. La salle des clavecins le prouve, avec cet étonnant clavecin meuble de 1700, dont le flanc est orné d'une rangée de tiroirs. Organisée par Eva Paulova et Bohuslav Čizek, l'exposition permanente du Musée de la Musique est un passage obligé pour tout mélomane ou amateur de belles choses. Insolite, elle est aussi très bien faite et constituera un instrument précieux pour tout chercheur ou étudiant en musicologie. Quittons-nous sur une anecdote recueillie au musée. Saviez-vous que la célèbre rue Nerudova, dans Malastrana, s'appelait avant la rue Lotnarska, autrement dit la rue des luthiers? L'enseigne aux trois violons est encore là aujourd'hui pour le rappeler. Thank you.
Le programme en langue française de Radio Prague Ondes Courtes se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.